Madame Bovary, d'après Gustave Flaubert. Lecture clé en français facile. Copyright Clé International 2019. Première partie. Dès qu'il eut terminé ses études de médecine, Charles Bovary alla s'installer à Tostes. Peu après, il épousa la veuve d'un huissier, une femme de 45 ans qui possédait une bonne rente. En se mariant, Charles avait imaginé qu'il pourrait faire ce qu'il voudrait, mais il ne tarda pas à comprendre qu'il n'en saurait rien. Sa femme était le maître. Il devait dire ceci, ne pas dire cela, s'habiller comme elle voulait, harceler les clients qui ne payaient pas. Elle lisait ses lettres et l'écoutait à travers le mur quand il donnait ses consultations à des femmes. Elle se plaignait toujours, elle était sans cesse malade. Le soir, quand Charles rentrait, elle sortait ses longs bras maigres de dessous ses draps et elle les lui passait autour du cou. Elle se mettait à pleurer, demandant un médicament pour sa santé et un peu plus d'amour. Une nuit vers 11 heures, ils furent réveillés par le bruit d'un cheval qui s'arrêta juste devant la porte. La bonne vint dire à Monsieur Bovary qu'il devait se rendre au plus tôt à la ferme des Berthaud pour soigner une jambe cassée. Charles répondit qu'il partirait au lever de la lune. Vers 4 heures du matin, bien enveloppé dans son manteau, il se mit en route pour la ferme des Berthaud. Quand il entra dans la cour de la ferme, une jeune femme en robe bleue vint le recevoir. Charles monta au premier étage voir le malade. C'était un homme d'une 50aine d'années, gros et assez petit. La fracture était simple. Charles réconforta le malade et lui soigna la jambe. Quand il eut terminé, il fut invité par M. Rouault, son malade, à manger quelque chose avant de partir. Charles descendit dans la salle, au rez-de-chaussée. Mademoiselle Emma Rouault, la jeune femme à la robe bleue, avait mis la table. Tout en mangeant, on parla d'abord du père de la jeune fille, de sa jambe cassée, puis du temps qu'il faisait, des grands froids, des loups qui couraient dans les champs la nuit. Mademoiselle Rouault n'aimait pas beaucoup la campagne, surtout maintenant qu'elle devait s'occuper presque toute seule de la ferme. Tandis qu'elle parlait, Charles fut surpris par la blancheur de ses ongles. Sa main pourtant n'était pas belle, un peu trop longue à son goût. Ce qu'elle avait de beau, en revanche, c'était ses yeux. Des yeux noirs comme du jais qui vous regardait bien en face. Charles monta dire adieu au père Rouault, puis redescendit dans la salle. Il trouva Emma debout, le front appuyé contre la fenêtre. En entendant le bruit de ses pas, elle se retourna. « Vous cherchez quelque chose ?» demanda-t-elle. « Ma cravache, s'il vous plaît, » répondit-il. Il se mit à chercher sur le lit. Elle était tombée par terre entre des sacs de blé et le mur. Emma la vit, elle se pencha sur les sacs de blé. Charles se précipita pour la ramasser et, comme il tendait le bras, sa poitrine frôla le dos de la jeune femme. Emma se releva toute rouge et lui tendit sa cravache. Au lieu de revenir à la ferme des Berthaud 3 jours après, comme il l'avait promis, c'est le lendemain même que Charles y retourna. Puis il y alla 2 fois par semaine, régulièrement, sans compter les visites inattendues qu'il faisait parfois, comme par hasard. Tout, du reste, allait bien. Au bout de 46 jours, le père Rouault essayait de marcher seul et considérait M. Bovary comme un grand médecin. Quant à Charles, il ne se demandait jamais pourquoi il avait tant de plaisir à se rendre au Berthaud. Ces jours-là, il se levait tôt, partait au galop et arrivait heureux à la ferme. Là, tout lui plaisait. Il aimait les écuries, il aimait parler avec le père Rouault et entendre le bruit des sabots de Mademoiselle Emma quand elle marchait dans la cuisine. Emma le reconduisait à la porte et le regardait s'éloigner. Au début que Charles allait au Berthaud, Madame Bovary demandait toujours des nouvelles du malade. Mais un jour, elle apprit qu'il avait une fille fort bien éduquée et agréable à voir. Pour elle, ce fut le comble. « C'est donc pour cela, se disait-elle, qu'il a l'air heureux quand il va la voir. Ah, cette femme, cette femme !» Et elle la détesta sans la connaître. Elle se fâcha si fort que Charles finit par lui obéir et il ne retourna plus au Bertaux. Au début du printemps, Madame Bovary apprit qu'elle était ruinée. Elle ne put supporter ce coup du destin. 8 jours après, alors qu'elle étendait du linge, elle se mit à cracher du sang. Le soir même, elle mourait. Quand après l'enterrement, Charles se retrouva seul, il fut empli d'une grande tristesse. Elle l'avait aimé, après tout. Un matin, le père Rouault vint payer à Charles ce qu'il devait pour sa jambe cassée. Il avait appris la mort de sa femme et il chercha à le réconforter. « Il faut réagir, monsieur Bovary. Ça se passera. Venez nous voir. Ma fille pense à vous de temps en temps, vous savez, et elle dit que vous l'oubliez. » Charles suivit son conseil. Il retourna au Bertaux. Il arriva un jour vers 3 heures. Tout le monde était au champ. Il entra dans la cuisine. Emma, assise près de la fenêtre, cousait. Elle lui proposa de boire quelque chose. Il refusa d'abord, puis accepta. Elle lui parla des maux de tête qu'elle avait parfois, lui demanda des conseils. Puis elle lui parla de son collège et lui montra ses anciens cahiers de musique, ses livres. Le soir, quand il fut chez lui, Charles repensa à tout ce qu'elle avait dit. Puis il se demanda ce qu'elle deviendrait si elle se mariait et avec qui. Hélas, le père Rouault était bien riche et elle, si belle. La nuit, il ne dormit pas. Il voyait sans cesse le beau visage d'Emma et toujours dans sa tête, cette petite phrase revenait « Si tu te mariais, pourtant, si tu te mariais !» Il décida alors de la demander en mariage dès que l'occasion se présenterait. Mais il retardait toujours le moment. Le père Rouault se rendit bientôt compte que Charles rougissait en présence de sa fille. « S'il me la demande, se dit-il un jour, je la lui donne. » Vers la fin du mois de septembre, Charles alla passer 3 jours au Bertaux. Le dernier jour, alors qu'il se promenait avec le père Rouault, la conversation s'engagea. « Maître Rouault, murmura-t-il, je voudrais bien vous dire quelque chose. » Ils s'arrêtèrent. Charles se taisait. « Mais racontez-moi votre histoire. Je sais tout !» dit le père Rouault en riant.
Père Rouault, fit Charles.
« Moi, je suis d'accord, mais il faut demander l'avis de la petite. Rentrez chez vous, je vais parler avec elle. Revenez nous voir demain. »
Le lendemain, dès 9 heures, Charles était à la ferme. Emma rougit en le voyant. Le père Rouault embrassa son futur gendre. On décida que le mariage aurait lieu vers le printemps de l'année suivante. Pendant tout l'hiver, Mademoiselle Rouault s'occupa de son trousseau. Emma aurait aimé se marier à minuit au flambeau. Mais cette idée ne plut pas au père Rouault. Il y eut donc une noce traditionnelle, où vinrent 43 personnes, où l'on resta 16 heures à table, et qui recommença le lendemain et un peu les jours suivants. 2 jours après la noce, les mariés s'en allèrent. Monsieur et Madame Bovary arrivèrent à Tostes vers 6 heures du soir. La bonne se présenta, s'excusa parce que le dîner n'était pas encore prêt et proposa à Madame, en attendant, de visiter la maison. En parcourant les différentes pièces, Emma se rendit compte qu'elle devait changer beaucoup de choses et elle se consacra à cette tâche pendant les premiers jours de son mariage. Les jours passaient. Emma sentit très vite qu'elle se détachait de son mari. Elle trouvait sa conversation ennuyeuse. Elle pensait qu'il ne savait rien, qu'il ne désirait rien. Il la croyait heureuse et elle lui en voulait de son calme et de sa satisfaction. Il rentrait tard, à minuit quelquefois. Alors, comme la bonne était couchée, c'était Emma qui le servait. Il parlait des malades qu'il avait visités et, satisfait de lui-même, il mangeait avec appétit, vidait sa carafe de vin, allait se mettre au lit,
se couchait sur le dos et ronflait.
Quand, lors de ses promenades, Emma pensait à sa vie, à Charles, elle ne cessait de se répéter « Pourquoi, mon Dieu, me suis-je mariée ?» Elle se disait qu'elle aurait pu rencontrer un autre homme, beau, distingué, attirant. Elle se sentait de plus en plus insatisfaite et méprisait Charles. Vers la fin de septembre, quelque chose d'extraordinaire se passa dans sa vie. Charles et elle furent invités à un bal, au château de la Vaubyessard, chez le marquis d'Andervilliers. Un mercredi, à 3 heures, Monsieur et Madame Bovary, montés dans leur voiture, partirent pour le château. Ils arrivèrent à la tombée de la nuit, au moment où on allumait des lampes dans le parc pour éclairer les voitures. La voiture de Charles s'arrêta devant l'escalier du château. Le marquis s'avança et, offrant son bras à la femme du médecin, il la conduisit jusqu'au salon. Là, une des dames se leva, la marquise elle-même, vint trouver Emma et la fit asseoir près d'elle sur un divan où elle se mit à lui parler amicalement, comme si elle la connaissait depuis toujours. À 7 heures, on servit le dîner, un repas exquis plein de mets exotiques. À la fin du dîner, on but du champagne glacé. Emma frissonna de toute sa peau en sentant ce froid dans sa bouche. Les dames, ensuite, montèrent dans leur chambre s'habiller pour le bal. Emma disposa ses cheveux selon les recommandations du coiffeur et elle mit une magnifique robe. Le pantalon de Charles le serrait au ventre.
« Je vais être gêné pour danser, dit-il. »«
Danser ?» reprit Emma. « Mais tu as perdu la tête. On se moquerait de toi. Reste à ta place, je t'en prie. » Charles se tut. Il marchait de long en large pendant qu'Emma finissait sa toilette. Il la voyait par derrière dans la glace. Ses beaux yeux semblaient plus noirs encore. Il vint l'embrasser sur l'épaule. « Oh, laisse-moi, dit-elle. Tu vas froisser ma robe. » On entendit alors la musique des violons. Emma descendit l'escalier lentement, en se retenant pour ne pas courir. Elle se plaça près de la porte, sur un divan. Elle ne savait pas valser. Tout le monde valsait. Cependant, un des danseurs, qu'on appelait Vicomte, vint l'inviter en lui assurant qu'elle danserait très bien. Ils commencèrent lentement, puis ils allèrent plus vite. Ils tournaient. Tout tournait autour d'eux. Les lampes, les meubles, le parquet. En passant près des portes, le bas de la robe d'Emma frôlait le pantalon du vicomte. Leurs jambes entraient l'une dans l'autre. Il baissait ses yeux vers elle. Elle levait les siens vers lui. Elle était haletante. Elle pensait qu'elle allait tomber. Il la reconduisit doucement à sa place. Elle appuya sa tête contre le mur et ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, elle vit que le vicomte dansait avec une autre dame. Il fallut aller se coucher. Emma s'obligea à rester éveillée pour ne rien perdre de cette vie merveilleuse qu'elle allait bientôt devoir abandonner. Le lendemain, après le déjeuner, les époux Bovary firent leurs adieux au marquis et à la marquise et repartirent pour Tostes. Quand ils arrivèrent chez eux, le dîner n'était point prêt. Madame se fâcha. La bonne lui répondit mal. « Partez !» cria Emma, et elle la renvoya. Le lendemain, la journée fut longue. Emma se rappelait tous les détails du jour du bal. Ce souvenir l'occupa pendant plusieurs semaines, puis elle commença à sombrer dans la mélancolie. Elle remplaça la bonne par une jeune fille de 14 ans, douce et tranquille, Félicité, qui obéissait sans jamais protester. Elle restait souvent enfermée dans sa chambre. Elle lisait un peu, puis se mettait à rêver. Elle désirait à la fois mourir et habiter Paris, ville où, pensait-elle, tous les désirs se réalisaient. Chaque matin, à son réveil, elle croyait que la journée serait différente de celle de la veille,
qu'il allait se passer quelque chose. Mais rien n'arrivait. L'avenir était un couloir tout noir et qui avait au fond sa porte bien fermée. Elle devint bientôt difficile et capricieuse. Elle se commandait des plats pour elle et n'y touchait pas. Un jour, elle ne buvait que du lait pur et le lendemain, une douzaine de tasses de thé. Elle méprisait de plus en plus son mari et elle avait des pensées étranges. Elle pâlissait et souffrait de battements de cœur. Certains jours, elle parlait sans cesse et d'autres, elle restait sans parler et sans bouger. Comme elle se plaignait de Tost continuellement, Charles pensa qu'elle serait sans doute en meilleure santé s'ils allaient vivre ailleurs. Il apprit qu'à Yonville-l'Abbaye, on avait besoin d'un médecin. Il écrivit au pharmacien de l'endroit pour savoir ce qu'il en était. Comme les réponses étaient satisfaisantes, il décida d'aller s'y installer au printemps. Quand on partit de Tost au mois de mars, Madame Bovary était enceinte.